Et voici notre séquence pour s'occuper pendant le confinement. Il paraît que pendant que les humains sont en retrait chez eux, la nature s'en donne à cœur joie. On va donc y faire un tour avec un de nos partenaires, l'EPAGA, l'établissement public d'aménagement de l'Aulne et de l'Yerre. Ces agents ne peuvent plus mener toutes leurs missions, mais ils peuvent encore sensibiliser le public. Aujourd'hui, c'est Sylvestre Boichard, chargé de mission Natura 2000 pour la vallée de l'Aulne et chargé de mission des milieux aquatiques. Il nous explique les espèces invasives et même les moyens de lutter contre ces espèces végétales et animales depuis son jardin.
Une espèce exotique invasive, c'est une espèce que, déjà qui vient pas de chez nous. Donc c'est des espèces qu'on a importées de l'extérieur par nos voyages ou aussi des fois de façon involontaire quand on transporte, quand des bateaux se déplacent ou qu'on déplace des animaux. Des fois on emporte des graines et puis on amène avec nous des espèces végétales.
Et animales en fait.
Et animales aussi, oui, tout à fait. Ouais. Et donc en fait, en les déplaçant du territoire d'où ils viennent et en les emmenant chez nous, ben, la plupart vont avoir du mal à s'adapter parce que le climat ou l'écosystème est différent, mais il y en a à peu près 1% qui vont se trouver bien et qui vont se développer. Et dans ces cas-là, elles peuvent devenir vraiment envahissantes et prendre la place des espèces locales. C'est pour ça qu'on parle d'espèces invasives.
Celles qui sont invasives, en fait, elles n'ont pas de prédateurs, c'est ça, en fait ?
Le fait pour qu'elles puissent devenir envahissantes, il y a plusieurs mécanismes. C'est souvent le fait qu'il n'y ait pas de prédateurs, ça c'est sûr. Mais il y a aussi des espèces qui ont une forte croissance. Par exemple, chez nous, on a des au bord des rivières, on a des roseaux qui poussent beaucoup. Et ces roseaux-là, quand ils ont été emmenés par exemple au Canada, et là-bas, ils sont mis à envahir toutes les rivières, tous les bords de rivières. Et là-bas, ils ont des gros problèmes à cause des roseaux. Chez nous, c'est pas une espèce qui pose vraiment beaucoup de problèmes. Il y a tout un écosystème qui s'est créé autour, mais par contre, au Canada, ça détruit des écosystèmes entiers. Le roseau a une forte capacité à se développer. Voilà, donc même s'il y a, on peut avoir des espèces qui ont des prédateurs, mais qui deviennent quand même invasives si elles se développent beaucoup, beaucoup.
Alors, on l'a déjà un petit peu compris en creux, mais c'est quoi l'impact d'une espèce quand elle est devenue invasive ?
Le principal impact, le plus problématique, c'est l'impact sur la biodiversité. Avec des espèces qui envahissent des milieux entiers et qui détruisent des écosystèmes. Au niveau mondial, c'est considéré comme la deuxième cause de disparition des espèces animales et végétales, les espèces invasives. Donc c'est vraiment un gros problème. Mais c'est pas le seul problème, hein. Les espèces invasives, elles peuvent aussi apporter avec elles des nouvelles maladies. Par exemple, comme le ragondin qui est porteur de plusieurs maladies. Donc, quand il se développe dans un milieu, il peut répandre ses maladies. Il y a aussi des problèmes économiques. Il y a la juicie, là, c'est une plante qui pousse dans les rivières ou les étangs. Quand elle se met à se développer, elle envahit tout et on ne peut plus accéder au cours d'eau ou à l'étang. On ne peut plus y pêcher, on ne peut plus se déplacer en bateau dessus. Ça coûte très très cher de l'enlever. Donc voilà, là c'est un coût économique important.
Alors, on va prendre quelques exemples d'espèces invasives bien connues chez nous, notamment un en particulier. Enfin, peut-être ce qui est intéressant, c'est de voir déjà comment est-ce qu'ils sont arrivés chez nous et puis quel est leur impact et quelle est leur extension. Alors, le laurier-palme.
Le laurier-palme, c'est vrai que c'est un peu l'espèce qui nous inquiète le plus, sur laquelle on travaille beaucoup, parce que bon, déjà, c'est une espèce qui vient d'Asie, qui a été importée en France pour les jardins, hein. Il y a à peu près une centaine d'années. Et on commence seulement à se rendre compte là de quel impact elle a, parce qu'on commence à la retrouver partout dans les forêts. Et en fait, autour de chez nous, là, si on fait un peu attention, on se rend très vite compte qu'il y a des pieds de laurier-palme qui sont répandus vraiment partout dans les forêts. Et ça devient un vrai problème. En fait, le laurier-palme, il se développe autant, c'est pour plusieurs raisons. Donc déjà, il se reproduit très très facilement. En ce moment-là, d'ailleurs, c'est la bonne saison pour le voir. Il fait des grandes fleurs blanches et ensuite ça fait plein de petits fruits noirs là qui sont mangés par les oiseaux et répandus sur des kilomètres. Donc ça peut vraiment se répandre assez rapidement sur de vastes zones. Et une fois qu'il commence à pousser, il pousse beaucoup plus vite que les plantes locales. Il n'a pas de prédateurs pour manger ses feuilles, donc il va très vite dominer en fait sous bois. Et en plus, il émet des substances dans le sol capables d'empêcher de faire germer les autres plantes. Donc là, on va vraiment... on commence à le voir dans certaines forêts maintenant, là, à Landévennec par exemple, autour de Châteauneuf-du-Fou. Il y a des zones où le sous-bois il est complètement envahi de laurier palme, il n'y a plus rien d'autre qui pousse. Et ça devient un désert.
Et c'est pas facile à enlever en plus.
Alors voilà, c'est le problème aussi souvent de ces espèces-là, c'est qu'une fois qu'elles sont bien installées, c'est vraiment très, très coûteux et très difficile à enlever. En fait, le laurier palme, à part l'arracher et surveiller des années après derrière, il n'y a pas de solution. Si on le coupe, il repousse. Donc voilà, ça peut être très coûteux. Mais pour revenir un peu sur l'impact du laurier palme, là j'ai parlé du fait que ça a étouffé le sous-bois. Donc faut se rendre compte, bon déjà visuellement on le voit bien, mais en étouffant le sous-bois, en fait, il détruit complètement des écosystèmes entiers, en fait, qui sont basés sur tous les petits animaux qui vivent dans le sous-bois. Et il y a des études qui ont montré que dans des bois envahis par le laurier palme, les chauves-souris, les pics, les rapaces, le gibier, toutes ces espèces-là, en fait, diminuent fortement. Donc c'est là, ça a un impact très fort sur la biodiversité. Et en plus, il empêche les jeunes arbres de germer. Donc on n'en est pas encore là parce que ça fait que quelques dizaines d'années qu'ils sont présents, mais quand les grands arbres en fait vont mourir, il n'y aura pas de jeunes arbres pour les remplacer. Et donc on risque d'aboutir à des plantations de lauriers palmes sans arbres, quoi, dans certains secteurs. C'est vraiment inquiétant. Hein.
Et le rhododendron-pontique, c'est son autre nom, c'est ça ?
Alors non, le rhododendron-pontique, c'est un autre arbuste qui a été planté dans les jardins. C'est une autre espèce, hein, qui fait d'ailleurs des très belles fleurs roses, violettes, là. Et lui, il se comporte comme le laurier palme. Alors, la différence, on le voit moins dans les forêts pour l'instant, parce que les oiseaux ne mangent pas ses graines. Les graines ne repoussent que quand, elles tombent autour de l'arbre et se ressèment. Mais elles vont pas être déplacées par les oiseaux. Donc la colonisation des milieux naturels est plus lente, mais elle existe quand même, hein, au domaine de Trévarez, à Saint-Goisec, où ils ont planté depuis 150 ans des lauriers, des rhododendrons. Et ben là, le sous-bois, il est complètement envahi de rhododendrons.
La renouée du Japon, alors c'est pareil, on la voit vraiment partout, en bord de route, enfin, elle est vraiment sortie des jardins, si jamais elle est rentrée par les jardins, je suppose que c'est le cas aussi.
Oui, c'est le cas aussi. Alors la renouée du Japon, elle va pas trop coloniser les forêts, par contre, en effet, elle va plutôt coloniser les bords de route ou, encore plus embêtant, les bords de rivière. Là, ça ressemble plutôt à un bambou. Comme le bambou, en fait, elle va faire des morceaux de racines, des rhizomes, qui vont s'enfoncer profondément dans le sol. Et une fois que ces rhizomes sont présents dans le sol, on peut couper la plante autant qu'on veut. En fait, les rhizomes vont toujours faire repousser la plante. Donc ça, c'est vraiment aussi embêtant comme plante, parce que une fois qu'elle s'est installée, même en fait, à part creuser avec une pelleteuse le sol pour enlever les rhizomes, il n'y a pas trop de solutions, quoi.
Et c'est pareil, elle détruit le milieu alentour.
Ouais, la renouée elle va complètement étouffer toutes les autres plantes aussi. Ouais. Un peu comme un bambou. Hein. Ça va vraiment, on va avoir une plantation de renouée en quelques années qui va s'étendre.
Et la datura alors ?
La datura, ça c'est une espèce qui est moins invasive, qui arrive à moins se développer dans le milieu naturel que les autres, heureusement, parce qu'elle est très toxique. Et par contre, on a le problème, c'est que les quelques graines qui arrivent à sortir des jardins, lorsqu'elles se retrouvent dans des champs cultivés, elles peuvent empoisonner les récoltes. Donc c'est vraiment une espèce, là, pour le coup, embêtante sur un côté sanitaire. Et du coup, il y a un suivi qui est fait au niveau de toute la Bretagne, hein, avec nos collègues, c'est l'ARS qui organise ce suivi-là, et les agriculteurs et... des gestionnaires de milieux comme nous, on doit vraiment, dès qu'on observe de la datura quelque part, on alerte l'ARS qui vient tout de suite les arracher. Parce que ça, c'est une plante qui peut vraiment avoir un impact sanitaire important. Ça, c'est des espèces pour lesquelles il y a vraiment un suivi au niveau régional encore plus important que pour les autres. Il y a l'armoise, il y a la berce du Caucase aussi, ou le raisin d'Amérique, qui sont des espèces qui ont un impact sur un plan sanitaire. Et celles-là, il faut vraiment, si on en a dans son jardin, faut se dépêcher de les retirer parce qu'elles sont vraiment embêtantes.
Et puis il y a les animaux, alors là en particulier, dont on parle souvent, c'est le ragondin, parce qu'il y a même des chasses qui sont organisées.
Oui, alors le ragondin, c'est aussi une espèce sur laquelle on travaille beaucoup, parce que elle va creuser des terriers un peu partout au bord des rivières, et ces terriers, ils vont avoir tendance à écrouler les berges, à écrouler aussi tout ce qui est chemin de halage, par exemple, au bord du canal, ou même les digues des étangs. Donc c'est une espèce qui est vraiment embêtante pour ça. Et voilà, et on travaille là sur le ragondin depuis presque 5 ans maintenant avec les chasseurs et les piégeurs du bassin de l'Aulne. En fait, on leur fournit des cages, on les forme au piégeage du ragondin et on donne une prime aussi pour chaque ragondin capturé.
Alors justement, les actions de l'EPAGA envers les invasives en général, enfin quelles invasives déjà, et puis quelles sont ces actions menées par l'EPAGA?
Bon voilà, là je parlais du ragondin. Pour l'instant, on a recruté environ 78 piégeurs depuis 5 ans. Il y a presque 3000 ragondins qui ont été capturés en 5 ans là. Voilà, ça c'est une action qui est financée par l'EPAGA. On a mis environ 30 000 euros déjà sur cette action-là. On est vraiment content du résultat. Pour l'instant, malheureusement, avec le contexte actuel, toutes les opérations de piégeage sont arrêtées hein, pour respecter le confinement, mais on reprendra dès qu'on pourra.
C'est la saison, il y a une saison pour faire ça, non ?
Ouais, l'idéal en fait pour le ragondin, c'est de le piéger avant qu'il se reproduise. Donc, ça commence à peu près au mois de février, la période de reproduction, jusqu'au mois d'avril-juin. Donc c'est à ce moment-là qu'on intervient le plus. On travaille pas directement, mais on travaille avec des partenaires qui gèrent des forêts en fait, sur le laurier palme et le rhododendron pontique. On a monté un programme avec le domaine de Trévarez. Sur le rhododendron pontique, on a réussi à trouver un peu de financement pour les aider à lutter contre cette espèce. Là, ils ont réussi à arracher tous les rhododendrons pontiques sur 3 hectares de forêt. Là, on est en train de retrouver une forêt naturelle dans ces zones-là. Il y a 20 000 euros qui ont été débloqués pour cette action. Et puis, on réfléchit là à d'autres actions avec la mairie de Châteauneuf-du-Fou, par exemple. Pour travailler sur le laurier palme, qui est vraiment embêtant aussi.
Et alors, quand on est dans son jardin et qu'on ne peut pas sortir, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour lutter contre les invasives?
Alors, tout d'abord, le plus important, c'est de les connaître, toutes ces espèces invasives. C'est de savoir, en fait, quelle plante peut s'échapper de notre jardin et aller coloniser les milieux naturels. Donc il y a eu un gros travail qui a été fait par le Conservatoire botanique de Brest pour analyser au niveau régional toutes ces espèces-là qui s'échappaient des jardins. Et j'ai vu là que leur travail avait été un peu vulgarisé et puis qu'il y avait aussi plein de liens avec des photos qui avaient été mises sur Wikipédia. Je pourrais vous donner le lien là pour les gens que ça intéresse, mais juste en tapant sur Internet liste... plantes envahissantes de Bretagne, on tombe sur Wikipédia, là il y a un super article avec plein de photos pour reconnaître les espèces invasives. Une fois qu'on les connaît bien, l'idéal c'est déjà de ne pas les planter chez soi. Voilà. Parce que malheureusement, il y a beaucoup d'espèces invasives qui sont encore en vente en jardinerie. Elles ont souvent l'avantage en fait de pousser bien, d'être bien adaptées au climat chez nous. Donc c'est rentable de les vendre. Et voilà, la première chose, c'est de, quand on aménage son jardin, d'éviter de faire des belles haies de laurier palme tout autour. Parce que ça risque d'envahir les milieux. Bon, quand on en a déjà dans son jardin des espèces invasives, là des fois c'est compliqué de toutes les supprimer. Donc déjà, ce qu'il faut ce à quoi il faut faire très attention, c'est d'éviter qu'elles se reproduisent, donc de surveiller l'apparition des graines. Le laurier palme, par exemple, en ce moment-là, il est en fleur. C'est vraiment le moment intéressant pour le couper, pour éviter que les graines se forment.
D'accord, on coupe toutes les fleurs, quoi.
Ouais, bah en fait, c'est juste tailler, hein. Faut tailler. Le laurier palme, en fait, il fait ses fleurs que sur les branches qui n'ont pas été taillées dans l'année. C'est intéressant. Il suffit de le tailler une fois par an pour éviter que les fleurs apparaissent. Mais si on voit qu'il est en fleurs en ce moment, il faut se dépêcher de le tailler parce que bientôt, les graines vont apparaître et vont être mangées par les oiseaux. Et attention aussi, quand on taille ou qu'on arrache des plantes invasives chez soi, il faut jamais les rejeter dans le milieu naturel. Ça, c'est souvent aussi, on veut bien faire, hein. On taille les choses chez nous, mais en fait, ces plantes-là, elles ont la capacité à repousser très vite. Donc, une branche de laurier palme avec le climat breton, si on la jette dans un fossé ou dans la forêt à côté de chez nous, bah, ça va refaire un arbre assez rapidement. Donc ça, il faut vraiment faire très attention à les mettre au déchet vert, voir s'il y a les graines qui sont formées, à les jeter carrément à l'incinération. Les graines résistent au compost en plus. Donc.
Oui, même un gros compost de déchetterie, c'est...
Ouais. Ah ouais, il y a les graines de plusieurs espèces, comme le laurier palme ou les herbes de la pampa, de plusieurs espèces qui résistent au compost. Donc quand il y a les graines, il faut faire encore plus attention. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est quand on sort de chez nous et qu'on fait des balades autour de chez nous, si on voit quelques petites pousses de laurier palme ou de rhododendron dans des milieux naturels, faut pas hésiter à les arracher. Il faut d'abord être sûr de bien les reconnaître, hein, pour pas arracher d'autres plantes. Mais en fait, c'est beaucoup plus facile d'arracher une petite pousse qu'à 1 ou 2 ans que de supprimer un immense arbre. Il aura poussé au bout de 20 ou 30 ans, quoi.
Les casser ne suffit pas.
Et non, parce que ça repousse.
Ouais. Et donc les arracher, mais les emmener avec soi alors.
Alors, on peut les arracher et les pendre à une branche. Et comme ça, les racines vont sécher à l'air et ouais, ça va pas repousser, quoi. Et oui, si l'idéal, c'est de les ramener chez soi et de les mettre à composter. Hein.
Dans l'agenda.